France Inter.
Ce jour-là, depuis l'aube, les rues étaient plongées dans un étrange brouillard immobile. Il était léger, il ne dissimulait pas les objets, mais tout ce qui le traversait se teintait d'une inquiétante couleur jaune sombre, et la fraîcheur rosée des joues des femmes, les taches vives de leurs toilettes, tout devenait à la fois sombre et net, comme à travers un voile noir. Vers le sud, le ciel était plus clair que la terre, mais au nord, près de la terre, il devenait d'un jaune noirâtre et opaque, comme en pleine nuit. Deux colonnes blanches à l'entrée d'un jardin dévasté par l'automne ressemblaient à deux cierges jaunes au chevet d'un défunt. Sur leurs tiges brisées, des fleurs tardives aux couleurs morbides se mouraient doucement dans le brouillard. Ce soir, dans l'heure bleue, notre invité est le jeune metteur en scène Julien Gosselin pour sa pièce intitulée « Le passé » au théâtre de l'Odéon. Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique et ce sera avec La maladie d'amour de Jean-Louis Murat.
C'est la maladie d'amour qui nous apprend à ne jurer de rien. C'est la nature de mon sang, par le sang où l'amour me tient. Et je passe toutes mes nuits en idée de bonheur, au soleil de votre vie. Je ne sais dire votre nom, mon désir, ça je le savais. Et où est votre maison? Mon plaisir, ça je m'en doutais. C'est la maladie d'amour qui nous tient le corps. Cette odeur de toujours. Ces licornes qu'on effleure, son silence nous fait trembler. Par tous les yeux la lueur de celle qu'on reconnaît. Voilà parade d'amour, sexe qu'il faut ajuster sur la piste des beaux jours. C'est la maladie d'amour qui nous tient le corps trempé. C'est la manie des toujours qui sait si bien nous faire chanter. Sur le mâle lit de fleurs où s'échangent mille baisers. Et le rêve dont on meurt
Que veut dire faire du théâtre aujourd'hui, Julien Gosselin ?
C'est difficile pour commencer. Moi, en ce qui me concerne, de plus en plus, à travers mon parcours et puis aussi à travers ce que je vois, j'ai l'impression que je suis de plus en plus en train de re-questionner justement ça. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que le théâtre est un art du contemporain ? Est-ce que le théâtre est un art du passé, du patrimoine ? Je me pose vraiment la question. Alors, avec ce spectacle, je me la suis posée tellement fort qu'au fond, la réponse est le théâtre est un art absolument d'aujourd'hui. Le théâtre est un art, oui, nécessaire. En tout cas, je ne sais pas, qu'il y a quelque chose à raconter, qui a une puissance, je crois, particulière, sans doute liée au fait que ce soit une puissance du vivant et du présent. Et en même temps, je pense qu'il ne faut pas du tout nier, je pense que c'est une des dimensions les plus belles, intéressantes, pour moi qui suis, un sinistre nostalgique, avec une sorte de tristesse. Il y a quelque chose à l'intérieur du théâtre qui raconte quelque chose de l'oubli, du passé, quelque chose qui n'existe plus, avec ces textes de répertoire de gens qui n'existent plus et qui sont morts, avec ces formes qui sont, pour beaucoup de gens d'ailleurs, généralement des spectateurs qui sont jamais venus, s'attendent généralement à voir ça justement, des gens avec des perruques, des rideaux rouges, enfin, il y a quelque chose dans l'image du théâtre qui est souvent faux et en même temps qui raconte quelque chose de nous qui est, je crois, très beau et très émouvant.
Pour qui fait-on du théâtre aujourd'hui et pour qui faites-vous du théâtre ?
J'essaie vraiment de pas trop me poser cette question. Je crois que je fais du théâtre vraiment pour tout le monde. En tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment très important pour moi et qui devient de plus en plus important. Je sais pas comment ça se traduira dans les années à venir, mais j'aimerais que tout le monde voit les spectacles que je fais. Mais vraiment tout le monde, à un niveau social, toutes les couches de la société. J'aimerais que mon théâtre soit montré partout. Alors c'est un théâtre pas évident à montrer partout parce que c'est, des grosses machines théâtrales. Mais par exemple, le fait de tourner est extrêmement important pour moi. J'aurais du mal à supporter de jouer le spectacle seulement dans 3 métropoles européennes et puis terminer. Donc pour qui je fais du théâtre ? Pour le maximum de gens, et je suis toujours surpris de voir que les spectacles aussi, parfois complexes soient-ils, ou en tout cas décrits comme complexes, peuvent toucher à peu près n'importe qui. Et même, j'ai envie de dire, n'importe qui, véritablement. Mais je crois que je fais aussi du théâtre pour moi. De plus en plus, j'essaye d'entrer, dans une forme de recherche intérieure. Alors ça a l'air peut-être très prétentieux, dit comme ça. Le théâtre est tellement un espace public, est tellement un espace ouvert, est tellement un espace dont on pense qu'il est uniquement l'espace du dialogue avec les spectateurs. J'avais tendance à penser que le théâtre était l'anti-roman intime, l'anti-autofiction. C'est-à-dire que j'avais l'impression que le rôle du metteur en scène n'était certainement pas de parler de lui, mais de raconter au mieux l'œuvre et de donner l'œuvre. Et de plus en plus, je me rends compte que le théâtre que j'essaye de faire, comme j'essaye d'en faire un théâtre, de vérité, c'est-à-dire de vérité avec moi-même, de la sensation vraie, comme dirait Peter Handke, ce théâtre est de plus en plus, autobiographique, c'est peut-être un peu large, mais enfin, je me dois à moi-même de raconter des choses qui sont profondes et qui ne m'appartiennent qu'à moi, à l'intérieur du théâtre que je fais, même si ça reste un espace bien trop public pour le faire.
Vous voulez dire, vous qui êtes très jeune encore, je crois que vous avez 34 ans aujourd'hui, et que vous avez commencé donc très tôt dans le monde du théâtre public, vous voulez dire que votre signature, qui existe déjà pleinement à l'intérieur du théâtre contemporain, a consisté à prendre des textes contemporains. Il y a eu Roberto Bolaño, il y a Michel Houellebecq, il y a Don DeLillo. Aujourd'hui, c'est un auteur du passé, sans faire de mauvais jeu de mots avec le titre de votre nouveau spectacle passé, Léonide Andreïev, qu'on connaissait pratiquement pas en France. Vous voulez dire que quand vous montez Andreïev ou Houellebecq ou Don DeLillo ou Bolaño, vous montez quelque chose qui vous appartient à vous-même et que vous lisez pour pouvoir transmettre le dévoilement de cette part inconnue de vous-même que peut constituer l'acte même de lire.
Vous le dites mieux que moi, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Au fond, quand on choisit un texte, on choisit parce qu'on l'aime, de manière très simple. Si on l'aime, c'est parce que ça raconte quelque chose de nous. La question est de savoir, est-ce qu'à un moment, le travail de mise en scène est un travail, est-ce que le travail consiste à donner le texte dans une forme de pureté, c'est-à-dire à s'extraire soi-même à un moment du processus spectaculaire et en faire quelque chose qui ferait qu'on en donnerait une vision, neutre ou au maximum objective, on pourrait dire presque un travail journalistique sur le texte théâtral, ou est-ce qu'à un moment, le travail de mise en scène consiste justement à faire se fondre, dans un grand exercice de trahison, un auteur et son expérience personnelle. Et moi, je sais que, par exemple, j'ai une habitude vraiment récurrente, c'est-à-dire que les fous de Don DeLillo détestent mes spectacles sur Don DeLillo, les fous de Bolaño n'aiment pas mes spectacles sur Bolaño, avec des exceptions, évidemment. Mais chose qui, au départ,
mais Houellebecq a beaucoup aimé votre spectacle.
Oui, Houellebecq a beaucoup aimé mon spectacle, mais les Houellebecquiens n'ont pas aimé mon spectacle. Non, mais pour des raisons d'ailleurs qui sont absolument normales. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de compter les points. Ce qui est intéressant pour moi de constater, c'est que les objets que j'essaye de faire, je ne peux plus, disons, essayer de les faire simplement comme des exercices objectifs. Voilà. Ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est de créer des spectacles qui soient... Qui existe en tant qu'objet unique. Et alors, pour ça, à l'intérieur, il y a, disons, le rapport premier, le rapport de la lecture que vous avez décrit, c'est-à-dire moi, tout seul, avec un auteur beaucoup plus grand que moi. Et de ça, va naître quelque chose qui va être, encore une fois, une trahison totale.
Le théâtre, c'est du spectacle vivant, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et Dieu sait que c'est vivant, un plateau de théâtre. Mais vous êtes un metteur en scène qui avait... amadouer, je dirais, apprivoiser les différentes clés de la fabrication du théâtre. Je veux parler de votre manière de faire de la vidéo, je veux parler de votre art des lumières, je veux parler de l'art hypnotique, de la puissance de la musique live, et je veux parler du jeu particulier que vous demandez à vos acteurs, qui font d'ailleurs troupe pour vous. Le metteur en scène est-il celui qui assemble ces différentes régies techniques pour faire spectacle, ou est-ce que c'est quelqu'un qui observe les acteurs pour construire à partir de leur corps? Et Dieu sait que le corps est important à l'intérieur de votre manière de faire du théâtre, qui met d'abord le corps et ensuite les différents artifices, entre guillemets, pour faire théâtre.
Bon, disons que la manière que j'ai de travailler est la suivante, c'est-à-dire que tout se fait en même temps. Donc le corps des acteurs n'est pas premier en tant qu'il serait solitaire au départ. Le corps des acteurs, il est... j'essaye, disons, de créer une sorte de corps commun, si on peut dire ça. Mais le mot corps est très juste parce qu'il y a quelque chose de très très organique à l'intérieur de ça. Le corps des acteurs est modifié, bougé, parce qu'ils entendent de la musique qui est produite en même temps qu'ils travaillent. Le corps des acteurs est modifié par la lumière et la qualité de la lumière, l'énergie de la lumière qu'il y a autour d'eux. Et de fait, évidemment, le corps des acteurs est bougé par le fait qu'il y a une caméra, souvent à quelques centimètres de leur visage. Voilà, les répétitions en tout cas s'organisent selon un processus vraiment commun, presque, je pourrais dire, synesthésique, entre quelque chose ou un moment. J'ai besoin que tous les sens qui sont au fond les artifices, comme vous l'avez dit, ou les techniques du plateau, soient réunis ensemble pour créer quelque chose qui à un moment va être l'objet.
Ce n'est pas du savoir-faire, c'est autre chose, c'est de la prise de risque à l'intérieur des différentes disciplines. Et nous, en tant que spectateurs, on a l'impression qu'on est justement en déséquilibre, qu'on a presque peur pour vous, parce que ce n'est pas la constitution de quelque chose qui est parfait, c'est autre chose. Alors qu'est-ce que ça veut dire faire du théâtre ?
Disons, il y a toujours une tension entre ce qu'on fait et ce qu'on voit de ce qu'on fait. Je me rends compte que, au fond, le travail que je fais peut être pris parfois comme un théâtre, disons, relativement pompier, assez sûr de lui, assez fier de sa, disons, l'exhibition de sa qualité technique. Moi, j'ai pas du tout l'impression de faire ça. J'ai l'impression justement de plus en plus d'aller vers un théâtre, disons, de la fragilité. Je me rends compte par le regard d'autrui qui semble que je sache maîtriser un certain nombre de choses techniques, mais j'ai pas l'impression de le faire, disons, différemment, par exemple, que de certains cinéastes ou que de certains écrivains. C'est-à-dire, je me vois effectivement au départ du travail toujours comme quelqu'un qui doit, disons, maîtriser une forme d'outil. Et non pas d'ailleurs maîtriser son récit ou maîtriser la sensation, mais maîtriser l'outil. Ensuite, justement, à l'intérieur de ça, moi, ce que j'essaye de trouver, c'est justement la faille, c'est-à-dire l'extrême fragilité. Il y a des choses que je peux faire, disons, typiquement l'usage de la vidéo à l'intérieur de mon travail. Il est là pour simplement essayer de révéler au maximum quelque chose qui est de plus en plus présent en moi, qu'il a toujours été, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une tension très profonde en moi entre la question du présent au théâtre et la question du corps comme montré comme quelque chose, disons, d'absolument existant, c'est-à-dire la pure question du vivant. Moi, je sais que je suis un lecteur, au fond. Donc, je suis quelqu'un qui regarde des signes morts. Je suis quelqu'un qui regarde l'absence de représentation. Et au fond, les artifices, toutes ces techniques de représentation, de plus en plus, moi, j'essaye de les mettre au service de quelque chose qui est justement un trou à l'intérieur de moi, qui serait la volonté de ne plus représenter. Alors, c'est à l'intérieur de cette tension-là que j'essaye de faire du théâtre.
Je vous propose d'écouter la voix de Claude Régis, qui va parler de la lumière, qui permet de changer, de contester la réalité. Pour les auditrices et les auditeurs qui n'auraient jamais eu la chance de voir un spectacle de Claude Régis, il faut savoir que quand on rentrait dans une salle où nous attendait Claude Régis, d'abord il était physiquement présent, je ne sais pas si c'est votre cas, il était assis au fond de la salle, personne ne le savait, mais une fois qu'on l'avait rencontré une fois, on savait bien que c'était lui qui était au fond de la salle, et d'autre part, il faisait nuit noire. Au début du spectacle de Claude Régis, cette nuit noire était demandée par le metteur en scène. C'est une archive INA de 2006, la voix de Claude Régis.
Je travaille énormément avec ces éléments et surtout, je dirais, avec la lumière, parce que c'est cette chose impalpable et en même temps qui est fluctuante et qui peut bouger sans cesse. Et en même temps, justement, dans toutes ces recherches obscures que je fais, j'ai découvert que la lumière est capable de changer la réalité et que même la réalité d'un être vivant. Et que par conséquent, c'est un élément fantastique puisque ça permet de contester l'existence de la réalité puisque on arrive à faire passer la réalité dans plusieurs aspects de réel et que finalement, ce n'est peut-être jamais qu'un passage d'un état de réel à un autre état de réel et qu'il n'y a pas d'état de réel fixe, ce que l'astrophysique nous dit d'ailleurs un petit peu. Aussi, et c'est une chose qui m'a conforté d'ailleurs, cette idée que rien ne peut nous permettre de dire qu'un objet est ce que nous percevons de lui, et que donc la réalité dépasse infiniment la perception que nous pouvons en avoir, et que donc s'arrêter à une réalité cernée, fixe, reconnaissable et définissable comme extérieure à nous, est une illusion totale. Alors il me semble que ça change complètement la façon d'aborder le réel au théâtre, qu'évidemment ça ne va pas dans le sens du réalisme et encore moins dans le sens du naturalisme, et que ça a été quand même peut-être ça le grand combat de ma vie, je peux dire.
Vous avez parlé du noir, vous avez parlé du vide, vous avez parlé de l'absence, Julien Gosselin. Est-ce que vous considérez comme un petit fils de Claude Régis, est-ce que le théâtre c'est pour vous justement la présence?
Bon, déjà, je fais partie d'ailleurs, je crois, d'une génération de personnes qui ont été extrêmement influencées par Claude Régis. Et d'ailleurs, je crois aussi parce que les spectacles que nous avons vus de Claude Régis sont les spectacles, disons, de la dernière génération de spectacles de Claude Régis, c'est-à-dire pas du tout, disons, les grands spectacles des années 60-70. On a vu davantage, au fond, les formes les plus expérimentales et les plus radicales qui étaient, enfin, quoique j'imagine que ça se discute, mais en tout cas, les formes de théâtre au noir, on pourrait dire, qu'il faisait à la fin de sa vie. Moi, il est extrêmement important pour moi, Claude Régis. Justement, est-ce que c'est un théâtre de la présence ou est-ce que c'est un théâtre de l'absence? En tout cas, c'est un théâtre, c'est sûr, qui se fait au noir. C'est un théâtre qui, à un moment, fait disparaître l'acteur en même temps qu'il le fait absolument apparaître. C'est un théâtre qui fait disparaître la sensation du théâtre en même temps qu'il fait apparaître la sensation pure de la poésie et de la littérature. Donc c'est quelque chose qui a été pour moi totalement important. Plus qu'important même. Il y a quelque chose qu'on avait quand on voyait les spectacles de Claude Régis, et c'est étrange pour moi, disons, de pouvoir témoigner de ça, alors que je n'ai vu que ses derniers spectacles, mais pour ceux qui ne l'auraient jamais vu, parce que maintenant il y a une génération de jeunes acteurs ou de jeunes créateurs qui n'auront jamais vu les spectacles de Claude Régis, il y a quelque chose qui rejoint, au fond, qui rejoignait le geste primaire de la lecture, sans en faire absolument quelque chose de réaliste, c'est-à-dire qu'il y avait, dans Claude Régis, la manière dont on pouvait être perforé, fracassé par un texte, par une langue, d'autant que elle se prononçait avec quelque chose qui avait à voir avec la bizarrerie ou la mort ou le cri, et à travers ça on avait la sensation presque pure d'aller à l'intérieur de la mer dans Pessoa, l'océan, ou alors des choses les plus sombres dans son dernier spectacle. Et ça, Claude Régis, pour autant que je fasse, en plus je fais un théâtre, je crois, qui a absolument rien à voir avec celui que Claude Régis fait, mais il y a quelque chose qui est toujours en moi à chaque fois que je fais un spectacle. Ouais.
Quel lien faites-vous entre théâtre et spiritualité ?
Ça c'est le grand, la grande découverte, quoi, pour moi, de ces dernières années, disons. Je suis pas du tout quelqu'un de croyant, absolument pas. Je suis pas particulièrement non plus un mystique, disons, dans les signes extérieurs. Mais par contre, je crois qu'il y a quelque chose que j'aime à l'intérieur de la littérature et de plus en plus, c'est, disons, l'expérience inconnue. L'expérience intérieure, si on veut, l'expérience inconnue, et même un peu plus que ça. Je me suis rendu compte que on a souvent parlé, Laure, ensemble de Bruno Dumont, qui est un cinéaste que j'admire énormément. Moi, si je devais résumer Bruno Dumont, sûrement que lui, il détesterait la manière dont je le résume, mais il arrive à faire que les plages, qui sont celles de mon enfance d'ailleurs, à Calais, qui sont des choses que beaucoup de gens voient de manière extrêmement brute, non poétique, apoétique presque, ces visages, ces plages, ces ciels. Et il arrive à en faire des endroits où on pense que Dieu peut apparaître. Alors moi, ça c'est vraiment, pour moi, ça c'est Bruno Dumont. Et c'est pas pour rien qu'il a fait Jeanne d'Arc. Je sais que moi je fais des spectacles, en tout cas j'essaye de faire des spectacles, même s'ils s'ancrent dans, disons, des choses parfois quotidiennes, des choses extrêmement réalistes. J'ai besoin de faire des spectacles où à un moment, une lumière, un son, un visage peut laisser penser au spectateur qu'il peut y avoir une autre présence. Et encore une fois, je sais que, disons, l'art que je fais a besoin de ça. Il n'y a pas longtemps, je suis allé voir Memoria, justement, d'Apit Chapong. Voilà, je crois que tous les immenses artistes que j'aime, à un moment, ont toujours témoigné du fait que la réalité filmée, écrite, mise en scène, était là pour faire apparaître quelque chose qui n'existe pas.
Je vous propose d'écouter la voix de Thaddeus Cantor à propos du théâtre comme avant-garde. C'est une archive INA de 1972.
Pour moi, le théâtre, ce n'est pas un terrain isolé et professionnel. Et les processus qui s'accomplissent dans l'art actuel, ce sont les révalorisations radicales. Et c'est l'avant-garde, ces révalorisations radicales qui explosent, qui détruisent, qui semblent absurdes, qui sont ridiculisées, humiliées, interdites. Tous ces processus forment un ensemble d'idées et d'effets qui sans cesse renouvellent la conscience de la condition humaine. Et dans le théâtre, il faut connaître ces processus. Et à mon avis, les metteurs en scène et les décorateurs, ils ne connaissent pas ces processus qui sont en général dans l'art. En plus, il faut y participer, et c'est quelque chose de plus. Il faut les créer et il faut prendre les risques. Prendre les risques, et ça, je considère comme la chose la plus importante.
Est-ce opportun ou est-ce vrai que vous avez changé un peu de style, Julien Gosselin, depuis vos premiers spectacles ? Vous aviez tout de suite déboulé dans le champ du théâtre contemporain en donnant, en offrant à chacun des spectateurs la possibilité d'être ému jusqu'aux larmes. Et finalement, avec la possibilité sensorielle et émotive de rentrer dans votre univers, grâce à plusieurs additifs qui devenaient d'ailleurs addictifs, comme la musique, le texte, la mise en scène, etc. Aujourd'hui, avec ce nouveau spectacle, qui est en ce moment à l'affiche au Théâtre Odéon à Paris, de Léonie d'Andrieff, Le Passé, vous utilisez différents arts du théâtre que vous n'aviez jamais utilisés. Notamment, c'est pour ça qu'on vous a choisi Thaddeus Cantor, mais il y a notamment la ventriloquie, il y a les masques, il y a les marionnettes, il y a le déploiement de toutes les possibilités du théâtre. Pourquoi ?
Je voulais faire un spectacle, c'est pour ça que le spectacle s'appelle Le Passé d'ailleurs, qui essaye de mettre très simplement sur le même plan l'idée que le théâtre pourrait être un art disparu, ou en tout cas ce dont on s'est parlé au début, un art qui porte en lui-même sa propre disparition, et le fait que l'humanité représentée sur les plateaux pouvait être gardée comme une humanité disparue. On me demandait souvent au début pourquoi vous montez des romans. Alors j'avais des réponses, disons, généralement je finissais par dire que c'était parce que le roman était le parangon, disons, du genre littéraire contemporain et que les plus grands récits pouvaient s'y déployer aujourd'hui, ce qui n'est pas d'ailleurs complètement faux. Mais au fond, je me suis rendu compte d'une chose très simple, c'est que quand le spectacle sur Michel Houellebecq commençait, les particules élémentaires ont commencé par un poème qui disait « au passé », parce que tous les romans sont écrits au passé, ou en tout cas 90% des romans sont écrits à l'imparfait, vous allez voir une humanité qui a vécu, ils étaient là à la fin du XXe siècle, enfin voilà quoi. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que tous mes spectacles commençaient par quelque chose où on disait « Regardez cette humanité qui est devant vous aujourd'hui, mais qui en réalité a disparu. » Et je faisais sans arrêt ça. Et donc, je me suis dit « Il faut que j'arrive justement à... » Au fond, le passé est mon spectacle, on pourrait dire presque le moins à l'imparfait. C'est presque mon spectacle le plus au présent, étonnamment. Et c'est pour ça que je monte une pièce de théâtre à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en examinant le passé, j'essaye de faire un théâtre qui, d'une certaine manière, met en jeu des choses, vous l'avez dit, avec l'utilisation des masques, avec l'utilisation de la toile peinte, met en jeu le théâtre comme une représentation pure du présent, avec en même temps portant les signes de sa propre disparition. Mais au fond, c'est le spectacle le moins à l'imparfait que j'ai fait. Donc, de fait aussi, je crois, le spectacle qui porte le moins en lui-même quelque chose qui serait une douce émotion nostalgique qui nous étreindrait. C'est un spectacle, je crois, sans doute un peu plus dur, un peu plus de recherche. Un spectacle aussi, je crois, en tout cas c'est ça que j'essaye de faire. Comme Léonid Andreïev est un auteur qui possède en lui-même, dans sa propre œuvre, des trous, des formes de ratés, j'avais besoin que le spectacle soit porteur de cette chose-là, c'est-à-dire non pas un objet rond, parfait, mais un objet qui puisse lui-même échouer à l'intérieur de lui-même.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Julien Gosselin, Édouard Grieg, 7 pièces lyriques, opus 47, 3e mélodie. Alors, Léonid Andreïev est un auteur qu'on connaît extrêmement peu, en France. Je crois qu'il est très célébré et très reconnu en Russie. C'est André Markovitz qui vous a permis, je crois, de faire, entre guillemets, sa connaissance. Et c'est le texte et la traduction d'André Markovitz que vous avez décidé, Julien Gosselin, d'adapter pour cette mise en scène du passé. Je vous propose d'écouter André Markovitz nous présenter, parce qu'après tout, vous faites œuvre nouvelle. Roberto Bolaño, tout le monde ne le connaissait pas. Il y a beaucoup plus de lecteurs de Bolaño maintenant, grâce à 2666. Houellebecq, c'est pareil. Don DeLillo, c'est pareil. Grâce à vous, on connaîtra mieux Léonide Andreïev et grâce aussi à André Markovitz qu'on va écouter maintenant.
Andreïev est né en 1871 et il est mort en 1919 de son vivant. Entre 1906 jusqu'en 1919, c'était l'auteur le plus important, le plus connu en Russie. Et c'est un auteur qui écrit des textes d'une violence absolue. Et j'ai beaucoup de mal à parler d'Andreïev pour la raison qu'il y a autant d'Andreïev qu'il y a d'œuvres d'Andreïev. C'est-à-dire qu'il écrit des nouvelles, il écrit du théâtre en même temps. Et à chaque fois, il change de style, il change de monde. Il y a des nouvelles et des pièces qui sont, qui traitent du monde contemporain et qu'on pourrait imaginer comme psychologiques, qui sont réalistes. Il y en a d'autres qui sont totalement fantastiques. À chaque fois, il réinvente tout. Ce qui fait le lien, c'est cette espèce de violence paroxystique que, en fait, je ne retrouverai dans la littérature russe que dans Marina Tsvetaeva, qui, commence, Akhmatova disait qu'elle commence, Tsvetaeva, qu'elle commence en plus haut de l'octave et qu'après, elle monte encore. Eh bien, Andreïev, c'est pareil. Sauf que lui, c'est pas qu'il monte, il descend. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre de ça? Pourquoi il n'est pas connu? Il a commencé comme un écrivain très révolutionnaire. Enfin, disons, en soutenant les révolutionnaires, la révolution. En 1905, il a fait de la prison, il a été exilé. C'était à l'époque un ami de Gorki. Ils étaient vraiment comme des frères. Ils ont d'ailleurs écrit en même temps. Ils voulaient écrire une pièce ensemble. Sauf que c'est devenu deux pièces. Gorki a écrit Les Enfants du Soleil. Et Andreïev a écrit une pièce magnifique qui s'appelle Vers les étoiles. Et le sujet est le même. Comment est-ce que tu peux regarder les étoiles quand autour de toi on massacre les gens? Et il est mort en 1919, donc 48 ans, vous voyez, très, très jeune, des suites d'une tentative folle de son adolescence. Mmh. Il avait voulu voir s'il pouvait supporter. Qu'est-ce qu'il pouvait supporter? Il s'était allongé sur les rails de tout son long et il avait attendu que le train passe. Il en était sorti avec une espèce de défaut du cœur qu'il a porté toute sa vie et qu'il a tué. Et c'est ça, Andreïev. Julien a fait un montage, parce que moi, je lui ai envoyé une dizaine de pièces que j'ai traduites, qui sont inédites, à partir de Léonide Andreïev. Il a aussi traduit, il a aussi utilisé une pièce que j'ai traduite, qui n'avait jamais été traduite avant, Requiem, qui est une pièce abstraite, une de ses dernières, sa dernière pièce, je crois, sur le théâtre. Et puis, il a ajouté des nouvelles. Et il en a fait une machine de jeu, une espèce d'épopée théâtrale. Qui utilise, et c'est pour ça qu'il a appelé ça le passé, tous les codes de jeu du théâtre classique, en y ajoutant sa propre patte et tous les enjeux des techniques contemporaines. Et c'est ça qui est stupéfiant, c'est que c'est un spectacle qu'on voit, comment vous dire, à plein de dimensions simultanément. Bon, il y a l'écran, mais il y a aussi ce que jouent les acteurs sur scène, et il y a ce que tu ne peux pas voir, ce qu'ils jouent, parce qu'il joue entre quatre murs. Et c'est véritablement bouleversant. C'est un des grands, grands spectacles que j'ai vus ces derniers temps. Voilà, je pense que j'ai eu beaucoup de chance de le rencontrer. On peut dire ça comme ça.
Alors, je crois que vous ne connaissiez pas André Markovitz. Donc, c'est drôle, ces histoires de contagiosité d'amour et de transmission d'amour.
Je l'avais rencontré très rapidement quand j'étais élève à l'école, à Lille, à l'école de théâtre. Il était venu nous parler de Dostoïevski pendant une semaine, dont il est un spécialiste absolu. Et puis, je l'ai rencontré vraiment par hasard parce que je voulais relire Les Enfants du Soleil de Gorki, je l'avais pas sous la main. Et comme je suis quelqu'un de très 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 impatient, il se trouve que j'étais à Lille à ce moment-là, et je lui ai écrit pour savoir s'il avait pas un PDF. Vous savez qu'il m'envoie un PDF des Enfants du Soleil. Et il m'a dit, parce que André Markovitch est... quelqu'un de malin, quoi. Il m'a dit, ça va pas vous intéresser, venez à Paris, venez parler avec moi, j'ai mieux pour vous. Moi, je me suis dit, bon, ça sent l'arnaque, quoi. Et je suis allé boire un café avec lui, et il m'a dit, ça c'est mieux, c'est tout aussi bien que Gorky, mais c'est beaucoup plus triste. Alors je me suis dit, bon, ça semble être pour moi. Et puis je l'ai lu, puis il avait raison, c'était vraiment beaucoup plus triste, quoi. Je lui ai dit justement que je voulais faire un spectacle là-dessus au départ. Je voulais faire quelque chose qui était observer une humanité comme prise au passé et voir et assister à sa disparition. Il m'a dit, bah alors vraiment, il faut que vous lisiez Andreïev. Et donc oui, ça a été, alors effectivement avec Andreïev, quelque chose de très fort, une sorte de découverte pour moi hyper importante. Et en même temps, avec André aussi, une découverte étonnante, parce que je crois qu'on se reniflait un petit peu tous les deux. Lui, il se disait, ok, qu'est-ce que c'est que ce garçon qui travaille avec des écrans au plateau? Et moi, je me disais, qu'est-ce que c'est que ce traducteur qui va sacraliser, disons, l'objet texte que je vais avoir à monter et de fait que je vais traduire. Et en fait, c'est une rencontre vraiment exceptionnelle. Je suis vraiment très heureux d'avoir rencontré André Markovitch, parce que je pense que Léonid Andreïev nous réunit à cet endroit-là, qu'il fallait faire un spectacle extrêmement radical, parce que c'était un auteur extrêmement radical. Et André était d'accord avec ça, et c'est le projet que j'avais. Donc ça a été vraiment... Voilà, maintenant on va se reparler beaucoup.
Cette histoire du passé de Léonid Andreïev se déroule dans des temps extrêmement troublés. Il y a beaucoup de violence à l'extérieur de cette maison dans laquelle va se dérouler toute l'action, mais il y a aussi beaucoup de violence à l'intérieur de ce réseau d'amis, de ces couples amoureux. Au centre, il y a le présent, effectivement. C'est votre sujet, d'ailleurs, dans ce spectacle. C'est comment rendre le présent sur un plateau de théâtre et comment rendre ce présent incandescent. Et au centre de ce présent incandescent, il y a le corps de la femme. Pourquoi ?
Au début, on a lu tous les textes d'Andreïev, avec les acteurs, ou en tout cas quasiment tous les textes de théâtre. Et à un moment, quand on a lu ce texte-là, notamment les deux actrices, Karine Goron et Victoria Kennel, m'ont dit, il faut absolument qu'on monte ça, Julien. Mais vous savez, quand on lit les textes, souvent on ne les comprend pas intégralement. C'est quand on les travaille qu'on les comprend. Et je les ai écoutés, et puis on a commencé à travailler sur ce texte-là. Et il s'est passé quelque chose, oui, je crois, disons d'extrêmement fort, c'est-à-dire que c'est un texte, je crois, qui raconte le patriarcat, qui raconte l'extrême violence masculine, la manière qu'on a d'objectiver les femmes, de les mettre à un endroit où elles peuvent, où on peut les insulter, où on peut les violenter. Donc le texte raconte véritablement ça. Et en même temps, ce qui a été magnifique pour nous dans le travail, ce qui je crois, en tout cas, le véritable intérêt de cette pièce, c'est que la révolte de cette femme se fait par la destruction. Et ça, c'est quelque chose qui est... en tout cas, moi, qui tous les soirs... D'abord, où tous les soirs, je remercie les actrices d'aller aussi loin à l'intérieur de ces personnages-là. Et je crois aussi quelque chose qui est véritablement intéressant, parce que ça rend au plateau de théâtre, je crois, non pas... le plateau de théâtre ne devient plus l'endroit, au fond, de la discussion idéologique. Il devient celui de l'extrémité. Il devient celui du combat. Et il y a de la folie à l'intérieur de ce texte-là. Il y a de la pure folie. Et moi, je sais que ce texte me bouleverse. Et me bouleverse d'autant plus parce que je vois deux actrices, et des acteurs aussi formidables, mais deux actrices porter cette chose-là à un niveau, oui, d'incandescence et de folie chaque soir.
C'est un théâtre de la radicalité parce que c'est un théâtre de l'approche de la vérité. Et nous, spectateurs, quand on est dans la salle, en train de regarder votre pièce de théâtre, Julien Gosselin, on se dit, tiens, j'ai peut-être compris ça. Mais dans la demi-seconde d'après, on s'aperçoit que ce qu'on avait compris, c'était justement pas ça. Donc cette vérité qui se dérobe sans cesse est-elle le signe justement des temps que nous traversons ? Parce que ce spectacle, il est aussi porteur d'une inquiétude dans laquelle nous baignons en ce moment.
Bon, il y a quelque chose, quand on fait des spectacles qu'on ne choisit pas, c'est au fond que le spectacle raconte quelque chose du temps présent. Je dis qu'on ne choisit pas, au fond peut-être qu'on le choisit. Mais en tout cas, j'ai jamais fait un spectacle qui ne raconte pas quelque chose du temps présent de manière très nette. Et c'est toujours arrivé. Au fond, quand on essaye de véritablement lire des œuvres, on finit toujours par les monter parce qu'elles ont une résonance avec quelque chose, oui, sans doute de nous, évidemment, mais peut-être aussi de la société. Après, je me bats vraiment avec l'idée que mes spectacles décriraient quelque chose d'un état, disons, idéologique qui m'appartiendrait. Il me semble que j'essaye de faire des œuvres qui même parfois vont contre moi-même. J'essaye de montrer des personnages qui disent des choses contre moi-même. Je suis très...
Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que, par exemple, le personnage principal des particules élémentaires était un personnage réactionnaire absolument ignoble. Le travail que j'essaye de faire, et ça je crois que je me battrai jusqu'au bout pour faire cette chose-là, c'est de mettre le public dans une position absolument critique. C'est-à-dire non pas d'essayer de donner un milliard de clés sans arrêt au public et de, au fond, terminer les spectacles par quelque chose qui serait une réconciliation idéologique avec le public, mais plutôt de mettre le public parfois dans une position, oui, de... allant même jusqu'à la colère. C'est très difficile pour moi d'imaginer qu'on puisse faire de l'art en montrant uniquement les aspects, disons, positifs d'une société ou en montrant comment une société devrait être meilleure. En tout cas, moi, j'en suis incapable. Presque, je pourrais dire, j'en suis malheureusement incapable. Le théâtre, pour moi, est le lieu où, à un moment, la réalité est abîmée, disons, par, oui, la fantasmagorie. C'est-à-dire que le théâtre n'est pas le lieu du réel en tant que tel, il est le lieu de la transformation du réel à travers des esprits qui sont parfois des esprits malades, comme celui de Léonid Andreïev. Et cette transformation, elle peut créer des choses qui sont des choses absolument inattendues. J'ai toujours parlé du mal, au fond. Et je crois que j'aurais du mal à imaginer poursuivre ma carrière en tant qu'artiste, même si d'ailleurs je touchais à d'autres arts, sans continuer à parler de cette question-là.
Alors cette question du mal, elle est au centre effectivement à la fois du texte de Léonid Andreïev et de votre mise en scène. L'héroïne principale va être obligée ou contrainte, de par son psychisme sans doute, d'avoir un corps en convulsion, un visage qui va... grimacer de plus en plus, comme si elle avait à l'intérieur d'elle-même une sorte de mal de vivre qu'il va falloir expulser devant une société d'amis complètement médusée. De quel mal s'agit-il et pourquoi ces corps en souffrance qui correspondent aussi à un état d'esprit? Effectivement, peut-être qu'on a une surinterprétation quand on va voir votre théâtre, Julien Gosselin, de ce que nous vivons aujourd'hui au quotidien, de ce qu'on appelle l'ère du temps. Mais c'est vrai qu'on vit dans une société aussi où le mal est là, enfin, la tentation du mal.
Mais disons, si on prend la pièce au niveau, disons, de son scénario, il y a quelque chose qui est évident, c'est que le spectacle commence par une tentative de meurtre sur cette femme. Et ce qui va à un moment amener cette femme vers la destruction et l'autodestruction, c'est que c'est l'inimaginable violence qui a été opérée sur elle, sur son corps. Et d'ailleurs, c'est une chose, je trouve parfois, je le dis, sublime dans les retours de spectateurs, même des gens peu habitués au théâtre, qui nous disent cette femme va mal parce qu'on lui a fait un mal incroyable. Voilà. Et ça, je vous avoue que c'est peut-être la chose la plus bouleversante qu'on puisse dire sur le spectacle. Ensuite, disons, ce qui m'intéresse, moi, c'est... Vous parliez de convulsion, vous parliez de tout ça. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller au-delà, justement, du débat à l'intérieur. Je veux dire, je suis pas là pour organiser des conversations entre les personnages. Ce qui m'intéresse, c'est un moment d'aller au-delà même du corps. La dernière image du spectacle, je crois, je ne vais pas la révéler ici, mais elle est une image de quelque chose qui est, au fond, qui quitte le débat ou le débat sur la violence et qui va vers quelque chose qui est, au fond, la pure et simple question, oui, du mal ou du mal à l'intérieur de l'existence humaine. Donc, le spectacle, je crois, est à plusieurs dimensions. Vous disiez qu'on est toujours un petit peu, on ne sait jamais à quoi s'attendre le temps d'après. Mais je crois qu'il y a ça dans Léonid Andreïev et il y a ça véritablement le spectacle que j'essaye de faire.
Est-ce que au théâtre, selon vous, Julien Gosselin, il y a une espèce d'idée de rite sacrificiel collectif? On part d'un point T et on arrive, je crois que votre spectacle dure 3h35 ou 3h40, en gros.
4h30.
Ah, pardon. Bah, vous voyez, ça m'a paru plus court. Mais n'empêche que nous sommes conviés à une traversée où nous allons, avec vous, accompagnés par vous et votre troupe d'acteurs, traverser plusieurs miroirs de la réalité, plusieurs métamorphoses corporelles et plusieurs symptômes de la société du XXe siècle. Est-ce que, finalement, on en sort ragaillardi, comme j'ai pu le ressentir le dimanche après-midi à la fin de la traversée en discutant avec des spectateurs, ou est-ce qu'on en sort interloqué en se disant il va falloir quand même penser à essayer de nous construire une société un peu plus bienveillante?
C'est, je sais pas exactement. Je pense que, d'ailleurs, vous avez oublié de dire qu'on peut en sortir également épuisé. Hein. Vous avez dit ragaillardi, mais enfin, on peut en sortir épuisé. Je me rends compte que c'est impossible, et ça l'a toujours été, mais sans doute que c'est quelque chose, c'est une dimension de vanité extrême en moi, mais ça m'est insupportable, je dois dire, pas insupportable, mais difficile d'imaginer que le théâtre, ou n'importe quel art d'ailleurs, serait là pour, disons, pimenter, vous voyez, une existence, quoi, comme les gens font des loisirs créatifs, vous voyez ce que je veux dire, de la pâte à modeler, ou des choses comme ça. J'ai du mal à imaginer que le théâtre puisse être un art, disons, d'un court divertissement avant un bon moment au restaurant, même si j'aime énormément aller au restaurant. Je voudrais que le théâtre soit un art qui mange l'intégralité de la vie, qui mange l'intégralité de la journée des gens, qui aille au-delà de leur soirée. Je voudrais que le théâtre ou la littérature recouvre tout. Évidemment, c'est impossible. Mais c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait toujours des spectacles longs, voire très très longs. J'ai besoin que les gens soient à l'intérieur de quelque chose, et que cet intérieur-là les poursuive en sortant du théâtre. Je crois que j'arriverai jamais à faire autrement. Je crois véritablement, et Dieu sait par ailleurs que j'aime les spectacles d'une infinie délicatesse qui durent une heure vingt, et qui nous amènent à l'intérieur d'un monde et nous permettent de le quitter relativement rapidement et n'exercent pas sur nous une forme d'emprise comme parfois peuvent le faire mes spectacles. J'en suis bien incapable. Je suis un lecteur de Bolaño, je lis 2666, et je suis à l'intérieur du cerveau de Bolaño pendant des dizaines d'heures. Je crois que je serais incapable de faire un théâtre qui soit autrement.
Ben merci infiniment. Julien Gosselin, vous avez réussi à nous perturber, vous avez réussi aussi à nous introduire dans un monde d'incertitude et d'intranquillité. Et dernier mot, c'est le côté fragmentaire. J'ai pu discuter à la fin de la représentation avec des spectateurs jeunes qui n'avaient jamais été au théâtre et qui avaient retenu que justement votre théâtre, c'était un théâtre de fragments, un théâtre de décomposition de notre monde commun et peut-être un théâtre d'espérance. Vous êtes d'accord ?
Oui. Non, mais le théâtre, c'est l'inverse. C'est peut-être, on dit toujours que c'est le dernier lieu du vivant. Je suis pas sûr. Moi, je crois que le théâtre, en tout cas, c'est sans doute le cas. Mais ce qui est véritablement certain, c'est que le théâtre est un des derniers lieux où le récit n'est plus fracassé, massacré par le récit au fond télévisuel. C'est-à-dire que la question du récit n'est plus dans la linéarité ou des stratégies, disons, absolument horribles pour nous faire entrer à l'intérieur de la fiction. Le théâtre est un art qui est dans la fiction, mais qui est aussi en dehors de la fiction, qui est un art de la juxtaposition, qui est un art du combat entre les formes, et du coup qui est l'art, disons, encore un art de l'intelligence et qui permet de mettre à l'épreuve l'intelligence du spectateur. Donc en ce sens-là, oui, je ne sais plus le mot que vous avez employé, mais je crois que c'est un théâtre qui est réjouissant et que le théâtre, de manière générale, permet encore cette vie-là.
Au bord de la mer, la
C'est avec Compagnon de Feu Chatterton que nous allons nous quitter ce soir. Merci encore Julien Gosselin. Je rappelle que votre pièce Le Passé, d'après Léonide Andriev dans la traduction d'André Markovitch, se joue jusqu'au 19 décembre au Théâtre de l'Odéon à Paris et qu'ensuite il poursuit partout sa tournée en France mais aussi en Europe. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à Céline Villegas, Élodie Royer, Iris Vertanissian et bien sûr à Lilian Alaume qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission